Mary ne voulut pas rester pour en entendre davantage. Il s'éloigna à pas de loup afin d'être prêt quand viendrait l'ordre du départ. Ce serait la dernière marche avant la bataille. Il n'avait pas le sentiment que beaucoup y survivraient. Mais il songea à Pipin et aux flammes à Minas Tirith, et il ravala sa propre crainte. Tout se passa au mieux cette journée-là, et ils ne virent ni n'entendirent rien qui leur laissa croire que l'ennemi les attendait en embuscade. Les hommes sauvages avaient déployé un écran de chasseurs attentifs, en sorte qu'aucun espion ou orque errant ne s'avise de leurs mouvements dans les collines. Le ciel se fit plus sombre que jamais à mesure qu'ils approchaient de la cité assiégée, et les cavaliers se succédèrent en de longues files comme des ombres noires d'hommes et de chevaux. Chaque compagnie avait pour guide un homme sauvage des bois, mais le vieux Gan marchait auprès du roi. Le départ avait été plus lent que prévu, car les cavaliers, contraints de descendre pour conduire leur cheval, avaient mis du temps à franchir les crêtes densément boisées derrière leur campement pour gagner les pentes cachées de la vallée des Fardiers. De fait, l'après-midi était fort avancé quand la tête du cortège arriva à de vastes fourrés gris s'étendant au-delà des flancs est de l'Amundine, masquant une large brèche dans la rangée de collines qui, du Nardol au Din, courait à l'est et à l'ouest. Désormais oubliée, la route chartière avait longtemps suivi cette brèche pour rejoindre la route principale de la cité à travers la Norienne. Mais depuis maintes générations d'hommes, les arbres se l'étaient appropriée et elle avait disparu, défoncée et ensevelie sous les feuilles des années innombrables. Les fourrés offraient toutefois aux cavaliers une dernière chance de dissimulation avant le combat ouvert, car au-delà s'étendaient la route et les plaines de l'Anduin, tandis qu'à l'est et au sud ne se trouvaient que des pentes nues et rocailleuses où les collines tourmentées se rassemblaient et s'amoncelaient, bastion après bastion, pour former la grande masse du Mindoluin et de ses épaulements. La compagnie de tête reçut ordre de s'arrêter et, à mesure que les suivantes se rangeaient derrière elle, sortant du goulet de la vallée des Fardiers, elles se dispersèrent vers des lieux de bivouac sous les arbres gris. Le roi appela ses capitaines au conseil, et Omer envoya des reconnaissances pour éclairer la route. Mais le vieux Gan secoua la tête.
« Inutile d'envoyer homme à cheval, » dit-il. « Homme sauvage, avoir déjà vu tout ce qu'on peut voir dans l'air mauvais. Eux bientôt venir ici et parler avec moi. »
Les capitaines vinrent auprès du roi, et, sortant du couvert des arbres avec méfiance, l'on vit arriver d'autres formes pouques, si semblables au vieux Gan que Mary avait peine à les différencier. Elles s'adressèrent à Gan en une langue étrangement gutturale. Peu de temps après, Gan se tourna vers le roi.
« Homme sauvage dire beaucoup de choses, » commença-t-il. « D'abord prendre garde. Encore beaucoup d'hommes au campement passer le Din à une heure de marche par là. »
Il agita le bras en direction de l'ouest, vers la croupe noire du feu d'alarme.
« Mais pas un seul être aperçu d'ici au nouveau mur des gens de la pierre. Là, très nombreux et très occupés. Mur couché maintenant, brisé par Gorgun avec tonnerre de terre et massue de fer noir. Eux pas méfiants, pas regardés autour d'eux. Eux pensaient que leurs amis surveillent toutes les routes. »
Ce disant, le vieux Gan laissa échapper un curieux bruit de déglutition et on eût dit qu'il riait.
« Bonne nouvelle !» s'écria Éomer. « Même dans cette pénombre, l'espoir entre lui de nouveau. Les artifices de notre ennemi souvent nous servent malgré lui. Ces ténèbres maudites ont été pour nous un manteau. Et voici que dans leur ardeur à détruire le Gondor et à l'abattre pierre par pierre, ces orques ont fait disparaître ma plus grande crainte. L'ennemi aurait pu tenir longtemps le mur extérieur contre nous. Maintenant la voie est libre, si toutefois nous y parvenons.
« Encore une fois je vous remercie, Gan Buligan de la forêt, » dit Théoden. « Que la bonne fortune vous accompagne pour vos nouvelles et vos conseils. »« Tuez Gorgon, tuez les orques. Aucune autre parole faire plaisir aux hommes sauvages, » répondit Gan. « Chassez mauvais air et obscurité avec fer brillant. »«
Nous sommes venus de loin pour accomplir cela, » dit le roi, « et nous le tenterons. Mais seul demain nous dira ce à quoi nous réussirons. »
Gan Buligan s'accroupit, et il toucha le sol de son front bossué en signe d'adieu. Puis, il se leva, prêt à s'en aller. Mais soudain, il leva le nez en l'air comme une créature des bois qu'un air étrange aurait surpris. Une lueur parut dans ses yeux.
« Vent change !» s'écria-t-il.
Et là-dessus, presque en un clin d'œil, lui et ses semblables disparurent dans les ténèbres, et aucun cavalier du Rohan ne devait plus jamais les revoir. Peu de temps après, loin à l'est, les faibles tambours parlèrent de nouveau. Mais nul ne craignait que les hommes sauvages fussent déloyaux, aussi étranges et disgracieuses que fut leur apparence.
« Nous n'avons plus besoin d'aucun guide, » dit Elfhelm, « car il en est parmi nous qui ont chevauché jusqu'à Munebourg en temps de paix, moi-même pour commencer. Quand nous arriverons à la route, elle virera au sud, et il y aura encore 7 lieues avant d'atteindre le mur autour des terres avoisinantes. Pour une bonne partie du chemin, il y a beaucoup d'herbes des deux côtés de la route. Les estafettes du Gondor disaient prendre là-bas leur plus vive allure. Nous pourrons y chevaucher rapidement et sans grande rumeur. Et puisque nous déchaînerons un grand courroux qui demandera toutes nos forces, je propose que nous nous reposions dès à présent et que nous repartions de nuit, de manière à prendre les champs d'assaut quand demain sera aussi clair qu'il pourra l'être ou quand notre Seigneur en donnera le signal. »
Le roi signifia son assentiment et les capitaines se retirèrent. Mais Elfhelm ne tarda pas à revenir.
« Les éclaireurs n'ont rien vu au-delà du bois gris, sire, » dit-il, « sauf 2 hommes. » Deux hommes morts et 2 chevaux morts.
Et alors, fit Éomer, qu'en disent-ils?
Ceci, seigneur, que c'était des estafettes du Gondor, et Irgon était peut-être l'un d'eux, du moins sa main tenait encore la flèche rouge, mais on lui avait tranché la tête. En outre, les signes semblent montrer qu'ils fuyaient vers l'ouest quand ils sont tombés. De ce que j'en comprends, ils ont vu que l'ennemi avait déjà pris l'enceinte ou qu'il l'assaillait au moment de rentrer chez eux. Et ce devait être il y a 2 nuits, s'ils se sont arrêtés au poste pour prendre des chevaux frais comme ils en ont l'habitude. Ne pouvant gagner la cité, ils s'en sont retournés. « Hélas !» dit Théoden. « Denethor n'aura donc jamais eu vent de notre chevauchée. Sans doute désespère-t-il de notre venue. »«
Nécessité ne saurait attendre, mais mieux vaut tard que jamais, » dit Éomer. « Et ce vieux dicton pourrait bientôt se vérifier. » Maintenant plus que tout autrefois, depuis que les hommes sont doués de parole.
Il faisait nuit. L'host du Rohan se mouvait en silence de part et d'autre de la route. Celle-ci, contournant le pied du Mine d'Oluin, tournait maintenant au sud. Au loin, presque droit devant, une lueur rouge empourprait le ciel noir, et les flancs de la haute montagne se dessinaient sombrement sur l'arrière-fond. Ils approchaient du Ramas, autour du Pélénor, mais le jour n'était pas encore levé. Le roi chevauchait au milieu de la compagnie de tête, entouré des hommes de sa maison. Léored d'Elfhelm venait ensuite. Et Merry remarqua alors que Dernhelm avait quitté sa place, qu'à la faveur des ténèbres, il ne cessait de gagner du terrain, de sorte qu'avant peu, il chevauchait tout juste derrière la garde du roi. Puis l'on s'arrêta. Devant lui, Merry entendit des voix qui parlaient doucement. Des éclaireurs étaient revenus après s'être aventurés en vue de la muraille. Ils s'adressaient au roi.
« Il y a de grands feux, sire, » dit l'un. « La cité est tout entourée de flammes et les champs fourmis d'adversaires, mais tous semblent s'être portés à l'assaut. Pour autant que nous puissions voir, il en reste très peu sur l'enceinte, et ils ne font attention à rien, occupés à détruire. »
« Vous rappelez-vous les paroles de l'homme sauvage, sire ?» dit un autre. « Je vis sur les hautes plaines du vol dans temps de paix. Vitfara est mon nom, et à moi aussi l'air apporte des messages. Déjà le vent tourne. Il vient un souffle du sud, et avec lui l'air piquant de la mer, aussi faible soit-il. Le matin apporte du nouveau. L'aube poindra au-dessus des vapeurs quand vous passerez le mur. »
« Si tu dis vrai, Vitfara, « puisses-tu vivre au-delà de ce jour pour des années bénies ?» dit Théoden.
Se tournant vers les hommes de sa maison qui se tenaient à portée, il parla alors d'une voix claire, si bien que les cavaliers de la première Éored furent nombreux à l'entendre.
L'heure est venue, cavalier de la marche, fils d'Éorl. L'ennemi et le feu sont devant vous, et vos foyers loin derrière. Et bien que vous combattiez sur un sol étranger, la gloire que vous y récolterez sera à jamais vôtre. Des serments vous avez juré. Remplissez-les maintenant, envers seigneur, patrie et pacte d'amitié.
La lance sonna sur l'écu.
Et Homer, mon fils, tu dirigeras la première Éorède,
dit Théoden.
Et elle ira au centre derrière la bannière du roi. Elfhelm, conduis ta compagnie à droite quand nous passerons le mur. Et Grimbold mènera la sienne à gauche. Que les autres compagnies suivent ces trois qui mèneront, comme faire se pourra. Frappez où que l'ennemi décide de s'assembler. Ce sont là les seuls plans qui puissent se faire, car nous ignorons ce qui se passe sur le terrain. En avant maintenant, et ne craignez point de ténèbres.
La compagnie de tête prit l'allure la plus rapide qu'elle put, car il faisait toujours aussi noir, quel que fût le changement pressenti par Vidfara. Merry était ballottée derrière Dernhelm, s'accrochant de la main gauche et s'affairant de l'autre à dégager son épée du fourreau. Les paroles du vieux roi lui revenaient à l'esprit, cuisantes de vérité. « Que feriez-vous dans une telle bataille, Merry Haddock ?»«
Seulement ceci, » se dit-il. « Encombrer un cavalier, espérer au mieux rester sur mon siège et éviter d'être piétiné à mort dans la cavalcade. »
Ils n'étaient pas à plus d'une lieue des ruines de l'enceinte extérieure. Ils y parvinrent bientôt, trop tôt pour Merry. Des cris sauvages éclatèrent, et quelques-uns croisèrent le fer, mais ce fut bref. Les orques restés près des murs étaient peu nombreux, et pris à l'improviste, ils furent rapidement chassés ou abattus. Aux ruines de la porte nord du Ramas, le roi fit de nouveau halte. La première Éorède se massa derrière lui et de part et d'autre sur ses flancs. Dernhelm restait auprès du roi, bien que la compagnie d'Elfhelm fût loin à droite. Les hommes de Grimbold passèrent sur le côté jusqu'à une large brèche ouverte dans le mur, un peu plus à l'est. Merry regarda par-dessus l'épaule de Dernhelm. Au loin, à une dizaine de milles ou plus, se voyait un grand incendie, mais les cavaliers en étaient séparés par des barrières de flammes dressées en un vaste croissant à moins d'une lieue de distance, au point le plus rapproché. Il ne discernait guère autre chose sur la sombre plaine, et il ne percevait encore aucun signe de l'aurore, ni aucune trace de vent, changé ou non. L'host du Rohan entra alors en silence dans la plaine du Gondor, et elle s'y déversa, lentement mais sûrement, comme la marée à travers une digue que l'on croyait étanche. Or, l'esprit et la volonté du noir capitaine était entièrement tourné vers la cité chancelante, et pour lors, nul n'était venu l'avertir d'une quelconque faille dans ses desseins. Quelque temps après, le roi mena ses hommes un peu à l'est, de façon à passer entre les feux du siège et les champs au pourtour. Il ne rencontrait toujours pas d'opposition, et Théoden ne donnait toujours aucun signal. Puis, il s'arrêta une fois de plus. La cité était proche à présent. Une odeur d'incendie était dans l'air et une véritable ombre de mort. Les chevaux étaient inquiets, mais le roi demeurait assis, immobile, sur le dos de Snowmana, et il contempla l'agonie de Minas Tirith comme soudain frappé d'angoisse ou encore de terreur. Il parut rapetissé sous le poids de la vieillesse. Merry, pour sa part, sentit l'horreur et le doute s'apesantir sur lui. Son cœur battait au ralenti. Le temps paraissait suspendu, incertain. Ils arrivaient trop tard. Trop tard était pire que jamais. Théoden allait peut-être flancher, courber sa vieille tête, faire demi-tour et se faufiler jusque dans les collines. Puis tout à coup, Merry le sentit enfin, sans doute possible. Un changement. Un vent soufflait sur son visage. Une lumière commençait à poindre. Loin, très loin. Les nuages apparaissaient comme des formes grises et indistinctes, s'élevant, flottant à la dérive. Le matin luisait au-delà, devant eux. Mais à ce moment-là, il y eut un éclair saisissant, comme si la foudre était sortie de terre au pied de la cité.
Pendant une seconde, elle se dressa vivement en noir et blanc, sa plus haute tour comme une aiguille coruscante. Et tandis que l'obscurité retombait, un grand boum roula vers eux à travers les champs. À ce bruit, la forme voûtée du roi se redressa tout à coup. Il parut de nouveau grand et fier. Et debout sur ses étriers, il cria d'une voix forte, plus claire qu'aucune voix de mortel jamais entendue par tous ceux qui étaient là.
« Debout, debout, cavalier de Théoden! C'est l'heure du courroux, fureur et massacre! La lance soit secouée, l'écu fracassé! Jour d'épée, jour de rouge, avant le jour levé! Au galop, tous au Gondor !»
Sur ce, il saisit un grand corps de la main de Gutlaf, son porte-étendard, et il y souffla avec une telle force que la corne se rompit. Et tous les corps de Lost furent aussitôt levés en une puissante musique. Et la sonnerie des cors du Rohan en cette heure fut comme un orage sur la plaine et un tonnerre dans les montagnes.
« au galop, tous au Gondor !»
Soudain, le roi héla son cheval, et Snowmana s'élança. Derrière lui flottait son étendard, cheval blanc en champ de verre, mais il le distançait. Après lui, venaient les chevaliers de sa maison dans un bruit de tonnerre, mais toujours il restait en tête. Et Homer était des leurs, et sur son casque, la queue de cheval s'agitait, blanche, au vent de sa course, et les devanciers de la première Éorède rugissaient tel un flot écumant à l'approche des côtes. Mais Théoden ne pouvait être rattrapé. Un instinct de mort l'emportait, où la furie guerrière de ses pères coulait tel un feu nouveau dans ses veines. Et Snowmana le portait comme un dieu des temps anciens, pareil à Oromé le Grand à la bataille des Valar, quand le monde était jeune. Son bouclier d'or fut découvert, et voyez, il rutilait telle une image du soleil, et l'herbe flamboyait de vert autour des pieds blancs de son coursier. Car le matin s'était levé, le matin et un vent de la mer. Et l'obscurité recula. Et les troupes du Mordor gémirent, et la terreur les prit, et elles s'enfuirent, et moururent, et les sabots du courroux les piétinèrent. Et tous les hommes du Rohan, dès lors, éclatèrent en chants, et ils chantaient en tuant, car la joie du combat les soulevait, et la rumeur de leurs chants, terrible et belle, se répandit jusque dans la cité.